C'était la dernière séquence, c'était la dernière séance, et le vide sur l'écran est tombé.
Bonjour à tous et bienvenue dans La Bonne Toile, le podcast qui parle de cinéma par genre et par salve de trois. Je suis Zoltan et cette semaine, j'ai eu la chance d'inviter trois merveilleux cinéphiles pour parler de trois films. Et ce mois-ci, le genre, c'est le genre du film de gangster. Et donc avec moi, j'ai mon acolyte depuis longtemps, David.
Bonjour.
Voilà, David the Film Talker. J'ai la personne qui est arrivée avec une entrée tonitruante dans le YouTube Game, Merej.
C'est vrai. Salut Zoltan, voilà. Salut les gens.
Et j'ai le plus grand collectionneur que je connais, l'homme dont l'appartement n'a pas de mur mais juste des DVD, Guillaume.
Bonsoir à tous.
Voilà, et donc ces quatre gentils cinéphiles, ou méchants, on verra bien, vont m'accompagner durant tout ce petit mois à travers trois émissions, à chaque fois sur un film. Et on va commencer tout de suite avec ce premier film aujourd'hui. Alors, c'est pas Merej qui nous l'a demandé, parce qu'en fait, la personne, Merej, a remplacé quelqu'un.
C'est vrai.
Voilà, on est transparent sur le truc. Toi, tu aurais choisi quoi comme film de gangster ?
J'aurais choisi L'Impasse.
L'Impasse de De Palma. Bon, ouais. Alors, écoute, on aura l'occasion d'en reparler dans une autre émission. En plus, tu en as parlé sur la chaîne de David durant votre longue rétrospective De Palma.
C'est vrai.
Donc, voilà, si vous avez envie d'entendre parler deux personnes ici de L'Impasse, vous pouvez aller sur les vidéos de David qui parle de De Palma. Et non, donc tu remplaces quelqu'un qui avait choisi un autre film de gangster plutôt réputé, Les Affranchis de Martin Scorsese.
Je connais.
Voilà. Alors, on va faire comme si c'était toi qui me l'avais proposé, Merej, parce qu'il y a tout un déroulé dans cette émission. Mm-hmm. Et donc, j'aimerais bien connaître ton premier contact avec Les Affranchis. La première fois que tu as entendu parler de ce film, comment ça s'est passé ?
Je me rappelle que je ne l'ai pas vu au cinéma déjà. Il m'était un peu passé au-dessus parce que j'étais un petit peu jeune. Et je l'ai découvert en vidéo. Je fantasmais assez sur l'affiche. L'affiche américaine, quoi, Godfellas. Et je l'ai découvert, j'avais peut-être 25 ans, 30 ans en DVD, quoi. Et voilà, parce que j'enchaînais pas mal de Scorsese à l'époque pour rattraper un peu mon retard, vu que pendant 8 ans, j'ai pas pu regarder de film. Et du coup, c'était ça. Je pense que je l'ai acheté d'entrée parce que je fantasmais sur l'affiche et puis je me suis pris une petite claque.
Ça permet de poser une question en DVD, du coup, par curiosité, parce qu'il me semble que j'avais voulu prendre le DVD à l'époque, mais j'ai laissé passer l'occasion parce qu'il me semble que c'était encore les DVD où il fallait les retourner au milieu.
Ah oui, ça me dit quelque chose, t'as raison. Oui, c'était un DVD
c'est pour ça
double
qu'en
face.
Fait, je l'avais pas pris, je l'avais pas pris à l'époque, donc je l'ai découvert beaucoup plus tard en fait, moi.
Complètement, exactement. Ouais, il fallait retourner le film.
C'est... Comme les laserdiscs, moi.
Ouais, parce que c'était les premiers DVD, il fallait retourner le film au milieu.
Sauf les gars qui avaient le maxi lecteur laserdisc qui changeait de face.
Ça, c'était la classe, mais t'avais certains films, dont les Goodfellas, où c'était trois faces et la troisième était sur un deuxième disque, donc de toute façon, t'étais niqué.
Ouais, c'était quand même niqué, ouais.
Même les riches, ils devaient se bouger leur cul au milieu.
Merde.
Et toi, David, c'est quoi le premier contact que t'as eu avec les Affranchis ?
Le premier contact que j'ai eu, c'était sur Canal+. Je devais avoir, peut-être 13 ans. Et j'avais déjà vu Taxi Driver de Scorsese, je crois que j'avais vu Raging Bull, et donc j'avais entendu parler de ce film. Vas-y, dis-moi.
Non, il y a quelqu'un qui souffle dans le micro.
Sauf rien. Moi, il était...
Ok, bon,
c'est marrant. Peut-être moi.
Ah oui, c'est toi. Désolé, c'est pas grave, c'est bon.
Alors, attendez.
Et donc.
Les Affranchis sur Canal+, je devais avoir 12 ou 13 ans, et je me rappelle, j'avais le petit journal de Canal+, enfin, ou le programme télé, quoi, avec tout le programme...
Le fascicule du mois, quoi.
Le fascicule du mois, voilà, et donc j'avais vu que c'était interdit aux moins de 16 ans, mais mes parents n'étant pas très regardants sur ce que je pouvais découvrir ou voir à la télé, j'ai rien dit à personne, et j'ai voulu voir ce film de mafia qu'on m'avait vendu comme l'un des meilleurs, et je me suis pris un aller-retour monumental, une grosse claque dans la tronche, voilà.
Écoute, pas mal. Toi, Guillaume ?
Moi, du coup, beaucoup plus tard, puisque j'avais la possibilité de le prendre en DVD, mais vu que le format était pas au niveau, j'ai attendu. Donc j'ai dû le voir pour la première fois il y a 5-6 ans, maxi.
Écoute.
Et j'ai pas été aussi impressionné que ça, parce que j'en avais tellement entendu parler avant que ça m'a pas fait le même effet, en fait.
Oui, forcément. Ça fait partie de ces films un peu qu'on peut considérer un peu comme pionniers dans une certaine forme de narration. Il y a eu beaucoup d'émules après. Et je peux comprendre que si on... Bah que fatalement, quand tu découvres après tout le monde, il y a peut-être un côté rétroactif qui fonctionne moins bien. Moi, pour ma part, en fait, c'est un film qu'on avait en Laserdisc. Donc pareil, un peu comme toi, la jaquette. Je crois qu'on avait la Laserdisc américain. Donc ce qui fait que je ne l'avais jamais regardé parce qu'il était en VO sous-titré. Mais par contre, il y avait cette espèce d'image qui était quand même assez intrigante. C'est un film que j'ai vu tourner quand mes frères le regardaient, tout ça. Et surtout, c'est un film dont mon frère, qui a été Steadicammer, était obsédé par ce fameux plan séquence de Steadicam. Donc j'ai vu ce plan séquence, je me rappelle, voilà, il était enregistré sur ma télé à une époque, dans les enregistrements, et donc bah, je l'ai vu genre 45 fois ce plan, sans vraiment avoir vu le film avant, et bah, récemment, enfin il y a quelques années, je m'étais refait Les Affranchis, là je me suis refait, donc c'est un film que je commence bien à maîtriser, mais moi mon Scorsese, on va dire de ce triptyque, c'est plus ce Casino que j'ai vu vraiment des centaines de fois enfant, donc voilà.
Casino enfant.
Ouais, enfant. Ouais, enfin, oui, ça, à 8-10 ans, quoi. Quand c'est. Bah ouais, hein, mais bon. C'est moi, j'étais.
T'es pris un coup de vieux ?
Non, les mêmes parents que David.
Non, je me dis que bon, c'est quand même un peu raide pour 8-10 ans, mais.
Bah, les mêmes parents que David.
Je vous laisse imaginer ce que je pouvais regarder d'autre sur Canal+.
Voilà. Exactement. Voilà.
T'étais très occupé le premier samedi du mois, quoi.
Voilà, pareil, oui.
Non, j'ai essayé surtout de faire en sorte que mes parents le soient.
Non, une fois, j'avais pris une cassette VHS de. Je me rappelle, c'était quoi ? C'était Robin des Bois, un truc comme ça, et j'avais enregistré un film porno dessus. Et je m'étais fait griller, enfin bon, bref.
Ah, toute une histoire.
Moi, j'enregistrais le film d'avant, mais je mettais l'heure super loin après, tu vois.
Il y a des malins à table.
La cassette en longue durée qui laisse tourner.
Il y a des gros malins. Est-ce que tu peux nous résumer le film, Mérège ?
Bah, ouais, c'est l'histoire d'un gars qui a toujours rêvé d'être gangster. C'est lui-même qui le dit. Ray Liotta. Je crois que j'avais vu, comment ça s'appelait ce film ? Absalom 2022 ?
Ah ouais. Oh là là.
Et j'aimais bien Ray Liotta, quoi. Je trouvais qu'il avait du charisme. C'est aussi pour ça que je voulais voir le film. Et donc, bah voilà, c'est un petit gars qui rêve d'être un gangster, de devenir gangster, qui traîne un peu dans le milieu, qui a des petits boulots, et puis qui, de fil en aiguille, devient un affranchi, quoi.
Voilà. Écoute, c'est un résumé plutôt bien fait. Écoute, c'est simple, net et précis, j'ai envie de te dire. À partir de maintenant, on va rentrer dans une zone de spoiler pour les gens qui n'auraient pas découvert le film. Je pense que ça fait partie de ces films qui peuvent se découvrir même après en avoir entendu parler, parce qu'il est tellement dense qu'il y a plein de choses qu'on n'arrivera pas à vous révéler. Et c'est pas non plus un film qui est basé sur des révélations plus que ça, c'est juste vraiment une aventure de vie. Donc voilà, vous êtes prévenus, si vous voulez vraiment pas entendre parler de The Goodfellas, arrêtez-vous maintenant. Mais on va quand même continuer. Alors, Guillaume, j'aimerais bien savoir, quel est pour toi le plus gros défaut de ce film ?
Lorraine Bracco.
C'est quoi ?
L'actrice qui joue la femme de Ray Liotta.
C'est quoi, moi ?
Qu'est-ce que c'est que Lorraine Bracco ?
Qu'est-ce que c'est que... Donc, t'aimes pas cette actrice ?
Ah non, c'est une catastrophe dans le film. En plus, j'ai écouté le commentaire audio. A priori, elle a cassé les couilles de Martin Scorsese et de toute l'équipe pendant tout le film. Elle n'arrive pas à être dans le même temps de jeu, entre guillemets. J'ai l'impression qu'elle est toujours en décalage avec tout le reste du casting. C'est assez pénible, en fait.
Mais son rôle est un peu pénible, donc est-ce que c'est pas un peu... Est-ce qu'il y a pas un côté...
Oui, mais en plus, elle joue mal, donc...
Mais je veux dire, est-ce que c'est pas... Il y a pas un côté quasi méta, tu vois, de prendre une actrice casse-burne pour jouer une femme un peu casse-burne. Enfin, elle est pas si casse-burne, d'ailleurs, dans le film. Elle est tellement débordée par ce qui se passe que...
Bah ouais...
Ouais, vous en pensez, elle vous dérange pas, vous, comme...
Ah non, moi, elle me dérange pas du tout.
Non, elle me dérange pas du tout, moi, au contraire, elle me faisait plutôt fantasmer. Tu sais, la fameuse scène où elle fait « Comment tu veux d'argent ? Je veux ça ?» Avec les doigts, elle monte une petite pile, puis après, elle se met à genoux dans la cuisine, c'était...
Ouais, ouais,
quand t'es jeune, tu fais « Oh là, qu'est-ce qui se passe, quoi ?»
Tu dis « Ça vaut le coup d'avoir des liasses de billets, quoi. »
Ouais, ouais.
Non, mais non, moi, j'ai toujours adoré ce personnage. Il est touchant, ce personnage, finalement, parce que quelque part, elle se fait un peu avoir par ce personnage d'Henry Hill qui lui promet... une belle vie et finalement elle va sombrer un peu avec lui, alors elle va être un petit peu sa partenaire, quoi,
vers la fin, ouais, surtout,
elle,
ouais.
Vers la fin, mais quelque part elle va se laisser entraîner un petit peu là-dedans et ne pas écouter ses parents qui l'avaient prévenu, qui lui a, voilà, qui...
Bah, sûr qu'il y a cette séquence où il y a le où Henry il défonce la gueule de son voisin qui l'a plus ou moins agressé, quoi,
ouais.
Sexuellement, enfin, on comprend. Et il lui file le flingue, et là, c'est là où, en fait, c'est le moment où elle comprend la vie qu'elle va devoir avoir et qu'elle accepte quand même, quoi.
Ouais, ouais, c'est quelque part, mais par contre, ce qu'elle dit, c'est qu'à ce moment-là, il y a quelque chose qui l'excite.
Ouais,
complètement. Elle ressent une forme d'adrénaline ou de quelque chose de... mon mari
a une fascination quoi.
À tout pouvoir quoi.
Mais c'est vrai que c'est pas une actrice qu'on a revue dans grand enfin qui a marqué le cinéma en tout cas.
Les Sopranos.
Les Sopranos, ah, bon, que bah, j'allais dire les Sopranos. Ouais,
ouais. Voilà. Vu que j'ai pas regardé en
avec
effet.
Michael Imperioli ouais. aussi qui joue dans le film donc.
Bon bah alors, c'est vrai que non, mais de toute façon les Sopranos ouais, c'est vrai que c'est un gros manque de ma part pour la catégorie gangster.
Non après dans la suite je crois que le film suivant qu'elle avait fait c'était Medicine Man avec Sean Connery.
Exact.
Qui est un film de McTiernan hein, ouais.
avec des travelling dans les arbres.
Bah oui,
c'est un truc de ouf ce film quand même.
Et alors en fait et toi Mérège, par contre toi qu'est-ce que tu vu que c'est pas toi qui as choisi le film, je ne vais pas t'imposer mais pourquoi tu aurais choisi ce film si tu avais dû parler du film de gangster, en quoi pour toi c'est vraiment un film de gangster mémorable?
Bah c'est un film de gangster mémorable déjà parce que le casting déjà voilà, De Niro, Joe Pesci, c'est plus moi pour Pesci et De Niro que je voulais regarder a priori, même si j'aimais bien Ray Liotta, le réalisateur, Scorsese, je sais pas, c'est la dream team quoi. Tu vois le cast, tu vois le réal, t'as envie de regarder direct quoi, enfin pour moi. Hein.
Ouais, mais c'est marrant parce qu'il y en a eu quand même quelques d'autres d'autres films du même avec le même trio quoi.
Ouais.
Est-ce que c'est le meilleur de ce groupe là?
Je préfère Casino.
Moi, je préfère Les Affranchis que Casino, mais je préfère Raging Bull, par exemple.
D'accord.
Que Les Affranchis, parce que bon, je trouve que c'est meilleur Scorsese, Raging Bull. Mais ouais, c'est dans mon top 5 Scorsese, hein, quand même.
Et toi, David, le plus gros défaut du film pour toi? Ah ouais, là, je suis obligé de te flinguer.
Ça, c'est hyper dur, parce que pour moi, c'est un chef-d'œuvre absolu, Les Affranchis. Donc
Ouais, mais je veux que tu me trouves un défaut.
Je sais pas, il y a peut-être à un moment donné un plan flou, peut-être. C'est peut-être ça.
C'est
peut-être ça le défaut. Non, mais sans déconner, pour moi, il y a. Je peux pas lui trouver de défaut, là. Pour moi, tous les acteurs sont grandioses. Alors après, c'est un film que j'ai vu, surtout en VF. C'est pour ça que je sais pas si je pourrais bien juger du bon jeu des comédiens.
Ouais, mais ça va, cas, je crois qu'ils sont plutôt réputés.
Mais je pense qu'ils sont plutôt bons, et puis le doublage était excellent. Et non, et alors, juste pour dire, bon, j'arrive pas à trouver de défaut, je suis désolé. C'est au-dessus de mes forces. Mais ce que je voudrais dire par rapport aux Affranchis, c'est peut-être le film qui te fascine le plus sur le monde de la mafia. Qui t'embarque le plus pour te fasciner, voilà, sur cet univers-là. Et c'est ça qui est extrêmement fort dans Les Affranchis, c'est que tu rentres dans cet univers via Ray Liotta et il te le magnifie. Et ce qu'il arrive à faire, c'est vraiment nous montrer tous ces personnages comme si c'était des gens qui avaient voilà, le pouvoir absolu sur tout. Qui ne s'emmerde pas à aller au boulot, qui ne s'emmerde pas à avoir des vies lambda comme tout le monde. Et il y a effectivement cette deuxième partie qui vient t'assommer à la fin pour te rappeler un petit peu ce que c'est qu'une vie de gangster aussi.
Mais c'est marrant parce qu'ils n'ont pas non plus une vie genre ultra faste quoi. Ils vivent pas dans des villas de dingue. Enfin, tu sens que ils ont des passe-droits.
Le pouvoir, mais... le respect quoi.
Ouais, c'est ça, ils ont plus ça que vraiment l'opulence, quoi. Enfin, c'est ça que je trouve assez marrant, quoi.
En fait, là où c'est vicieux, Les Affranchis, par rapport à d'autres films de mafia, où c'est des fois assez glauque et assez vite, assez rapidement dans le récit,
d'accord.
Là, dans Les Affranchis, tu as envie, en fait, de faire partie de cette bande de potes. C'est ça que je voulais dire, c'est qu'il te... Il te met en scène toute cette camaraderie.
Ouais, jusqu'au meurtre de Danny Betts. Enfin,
ça, c'est le début du film, en fait.
Non, y a un rappel, mais je veux dire.
T'as surtout envie d'être le pote de Joe Pesci, quand même.
Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il mène la belle vie. Et c'est pas. En fait, c'est pas glauque, finalement, parce qu'il te montre que ce sont des gens qui sont avec leur femme, qui ont des enfants, qui partent en vacances ensemble, ils sont potes, c'est une bande de potes en fait, c'est en ça que le film il est vicieux, c'est qu'il te montre l'univers de la mafia via des valeurs humaines qui peuvent te séduire, enfin séduire n'importe qui.
Ouais. Bon, je trouve qu'il y a quand même une violence qui te rebute assez vite, enfin moi être pote avec Joe Pesci, rien que ça me suffit à trouver ça affreux.
Il faut être de son côté quoi. Mais d'ailleurs le film il s'introduit, tu dis, parce qu'en fait c'est Ray Liotta jeune. Parce qu'il est jeune au début.
Ouais.
Et du coup, comme on a tous plus ou moins découvert le film jeune, peut-être que ça nous fascinait. On s'identifiait peut-être plus aussi.
Parle bien devant mon micro.
Ah oui, on s'identifiait peut-être plus justement à un ado, quoi. Je sais pas si je suis clair, mais...
Ouais, ouais, je comprends. Moi, j'avais envie que tu me dises, pour toi, le défaut du film, Mérège, parce que tu l'as pas dit.
Le défaut du film, c'est que Samuel Jackson a un tout, tout petit rôle.
Ah, il est anecdotique, c'est un truc. Il a jamais un plan de face.
D'ailleurs, quand je l'ai revu la deuxième ou troisième fois, j'ai fait « Quoi ? Il y a Samuel Jackson ? Qu'est-ce que c'est que ça ?» Ouais. Parce qu'à l'époque, on le connaissait pas, quoi, et c'est trop drôle.
Mais il a une scène mémorable.
Ah oui, mais ouais. Il est filmé de dos.
Oui, mais... Il est filmé de dos tout le temps. Oui, au moins à ce moment-là, oui.
Mais tout le temps.
Quand il se fait descendre
tout le temps, je te promets. Et toi, Guillaume, tu vas devoir trouver la plus grande qualité du film. Parce que je sais que t'es pas un grand client du film.
Ah si, j'aime beaucoup le film, hein. J'ai pas de problème, hein, mais après, effectivement, comme j'ai découvert sur le tard, j'ai pas le culte autour du film que certains autres ont. Alors après, la plus grande qualité du film, je vais dire que j'adore la photo de Michael Ballos.
D'accord.
Elle est vraiment superbe, très crépusculaire, très sombre. Un peu trop sur l'UHD, mais il y a quand même un feeling que le film est encore fait par un chef-op des années 70 et on n'est pas encore sur le cinéma des années 90 qui va tout suréclairer. Là, la moitié des scènes, les visages sont toujours à moitié dans la pénombre, etc. La photo est vraiment superbe.
Et rapidement, pour parler de l'UHD, il est pas bien ?
Non, à éviter. Restez avec le Blu-ray. Très bien.
Parce qu'il est trop sombre, c'est ça ?
Ouais, beaucoup trop sombre.
Moi, j'ai regardé le Blu-ray hier et franchement, il envoie du steak.
Et pour te rejoindre sur la photo aussi, c'est, à moins que je dise une grosse connerie, mais il me semble pas, il est en 85 le film, il est pas en scope. Hein.
Il est en 85, ouais.
Et du coup, ça aussi, j'aime bien le style de Scorsese quand il est pas en scope. Tu vois, Raging Bull non plus n'est pas en scope.
C'est vrai que oui, sur ma télé, ça prend toute la télé. Ouais,
ouais. Et alors que Casino est en scope, par exemple, tu sais, il y a des réals comme ça, je me dis comme Sam Raimi, par exemple, je préfère quand ils sont pas en scope, en fait.
Ouais, ouais, bah, je peux comprendre.
Et là, en fait, moi, j'ai écouté le commentaire audio derrière, et c'était vraiment un choix de Scorsese qui voulait, en fait, pouvoir avoir un équilibre dans la présentation des personnages, en fait. La façon dont ils étaient les uns par rapport aux autres, le scope aurait rajouté plus de distance. Il voulait vraiment rester sur un format qui rapprochait un peu tout le monde, où on pouvait avoir
familial,
ouais, familial, quelque chose, une vue de tout ce qui se passe et de tous les gens qui sont autour, parce qu'il y a toujours 5 personnes qui gravitent autour des 3 acteurs principaux, quoi.
Ouais.
Donc c'est un film de Martin Scorsese. Je voudrais avoir un peu votre avis sur ce réal rapidement, hein. On va pas être plus exhaustif que ça, mais bon, David, toi t'as fait une vidéo, donc
ouais, voilà, donc je vous renvoie à la vidéo.
Je pense que c'est ce qu'il y a de mieux à faire, en effet. Mais Mérège, rapidement, Scorsese, pour toi, c'est
un de mes 10 réalisateurs préférés, je pense un des meilleurs réals du monde. En plus, le mec est là depuis je sais pas combien de temps, il tient encore sur la durée, il est toujours là avec toujours des
c'est
projets intéressants.
C'est un des rares qui s'est pas vautré, hein, dans les... Ouais. Enfin, tu vois, par rapport aux De Palma, des Coppola, des mecs qui finalement se sont vautrés,
ouais,
en
ouais,
fin de carrière.
C'est lui et Spielberg.
Il est toujours là. Bon, quand même, si je veux être tout à fait honnête, je trouve que ses derniers films sont quand même moins bons que ses premiers, hein, on va pas se mentir, mais ça reste toujours de super hautes volées quand même, quoi.
Ouais, ouais, en plus il a réussi à se réinventer, enfin bon, bref. C'est, en effet, je suis d'accord là-dessus. Et toi, Guillaume, Scorsese, pour toi ?
Pour moi, c'est la mémoire du cinéma. C'est le mec a une culture encyclopédique et le rend bien dans ses films. Là, quand j'écoutais le commentaire audio, le mec parlait du néoréalisme italien. Il citait toutes ses références, Levitelloni et compagnie. C'est voilà, tu sens qu'il y a une culture du cinéma qui ressort en fait dans tous ses films. Et il y a vraiment quelque chose de plus que d'autres réalisateurs. Ouais.
Alors pour le coup, d'habitude, dans les dernières émissions, on a parlé de réalisateurs un peu moins connus et prolifiques. Enfin non, on a parlé de Takeshi Miike, donc en termes de prolifisme, il est au-dessus de Scorsese. Mais je veux dire, là, bon, ça sert à rien d'essayer d'expliquer qui est Scorsese en 3 minutes dans ce podcast, c'est pas le but. Donc on va passer à la section des questions connes. Et alors là, accrochez-vous, messieurs, dames, on va avoir un bon lot de questions débiles.
Alors qui dit question conne dit réponse conne ou
vous allez voir. Non, on essaye d'être sérieux, mais avec votre esprit de dérision. Et vous allez voir. Est-ce que ça vaudrait le coup de faire un remake de ce film ?
Oui.
Oui ?
Ouais. Oui. Dans un autre contexte de gangster, par exemple en Corée ou un truc comme ça, il pourrait y avoir quelque chose de... Avec parce que le cinéma asiatique est beaucoup plus violent encore que le cinéma américain, et il pourrait y avoir quelque chose encore plus viscéral et... Il y a moyen de le transposer dans d'autres pays. Pas forcément faire un remake aux États-Unis, ça n'aurait aucun intérêt. Mais par contre, dans d'autres pays, il y a moyen de réexploiter le truc avec d'autres mafias ou d'autres groupes de gangsters, en fait.
Et quand tu dis remake, ça serait remaker l'histoire ou vraiment remaker le style du film ?
Parce c'est que ça qui est un peu bâtard, parce que c'est vrai que l'histoire...
Parce que si c'est l'histoire, c'est possible.
Ça a déjà été quasiment fait, en fait, ouais. L'histoire d'un gangster.
J'ai même envie de te dire, bon, c'est pas trop la même chose, mais il y a un petit peu Donnie Brasco, tu vois, avec Johnny Depp qui s'infiltre... chez les mafieux et qui va les dénoncer au FBI, etc. Enfin bon, c'est un peu, ça rejoint un peu le parcours de Henry Hill.
Mais en tout cas, bon, toi Mérège, donc... un remake des Affranchis, ça aurait pas trop d'intérêt.
Je sais pas, moi j'imagine de l'huile et du vinaigre, tu vois, ça marche pas, quoi. Il y a un truc qui marche pas.
Et
quoi.
Si par contre on est obligé de faire un remake aujourd'hui, un remake vraiment, on dit tu dois.
Ah, tu dois
non,
faire.
Non, pas toi, mais genre, mais on dit tu dois faire un remake. Qui est le réal, qui sont les acteurs?
Écoute.
Je me casse sur Mars.
Ah ouais, tu veux pas voir ça.
Je sais pas, moi je prends Nicolas Tse, Chow Yun-fat et Tony Leung et je demande à Choi Hark.
Voilà, ok, donc tu es full asiat, au moins comme ça, t'es tranquille.
Non, pas full asiat, full HK.
Ouais, full HK, voilà. Toi, si tu ferais pareil, Guillaume, ça te va comme casting?
Non, ça m'irait pas, parce que le style visuel de Tuerk est beaucoup trop fort pour un film qui est surtout sur de la narration. Je pense
ouais,
que,
il peut
par Jonito, déjà, ce serait plus infusé, plus...
Ouais,
cohérent,
ouais, mais justement.
Après, il faut changer un peu.
Ça serait un peu différent.
Le côté cocaïnomane, il arriverait à le transcriire pour le coup, Tsui Hark, de toute manière. Je suis pas sûr qu'il ait déjà pris de la coke, mais en tout
pas
cas.
Pas autant que Mickey, certainement.
Mais... Non, voilà, ouais. Ça serait
non, mais en tout cas, il a pris, je sais pas ce qu'il a pris, mais il a pris quelque chose.
Ouais, voilà. Bon, toi, t'aurais un réal que tu verrais. Après, je t'oblige à trahir ton maître, mais c'est pas grave.
C'est impossible. Ouais. Non, je sais pas.
Moi, honnêtement, dans les réels que j'aime bien récemment, il a fait un film de mafieux qui n'était pas le meilleur, mais voilà. Oh, franchement, moi, j'aimerais bien voir. Non, il n'y a pas. Ouais, Derek Sin France. Moi, je vois bien. J'aime bien ce réel. Et je
qui
pense
ça
que
ça
Derek Sin France, c'est le mec qui a fait The Place Beyond the Pine.
Ah
et
oui,
j'aime
bien
beaucoup ce réel. J'aime bien. Et aussi, je mettrais bien le mec qui a fait A Most Violent Year. Donc, je ne sais plus comment il s'appelle. J'ai oublié. Celui qui a fait aussi...
Avec Oscar Isaac.
Voilà.
Je ne l'ai pas vu.
Ouais. Celui qui a fait aussi
ouais,
Margin Call.
Est... Ouais.
J'aime beaucoup ces deux réals.
J.C. Chandler.
J.C. Chandler.
Exactement.
Et qui a fait aussi Triple Frontier. Et bon, bah, c'est ces deux mecs, si, dans le cinéma américain aujourd'hui, si on devait faire un remake d'Affranchi, j'aimerais bien
ça
voir ce qu'ils font.
Un peu mou
mais...
du genou, hein, quand même.
Oh, quand même, ouais.
J.C. Chandler, un peu mou du genou. Derek Sin France, je pense que je serais un peu plus partant, mais ce serait mais pas du tout
en fait,
la même
déjà,
chose.
Il faudrait trouver un réalisateur un peu cocaïnomane, hein, puisque ouais. Scorsese ah bah était
oui,
un peu
oui.
cocaïnomane.
Abel Ferrara.
Ah
oui,
c'est ça.
Ouais, voilà, ouais.
Ouais, ben bah voilà, non, mais déjà, ouais, ça ressemblerait quand
et en acteur, rapidement, pour remplacer
mais non,
le
mais
trio.
Tu peux
là.
Pas remplacer Joe Pesci, qu'est-ce que tu veux. Un petit excité, nerveux, comme ça.
Ah ouais.
Pas, Sarkozy. Un petit roquet.
Non, mais bah, c'est sûr que le trio, il est quasiment irremplaçable. Enfin, surtout le duo, mais écoute. Bon, vous n'êtes pas plus inspiré que ça. Si on devait faire ce film en France, ça donnerait quoi pour vous?
Oh my fucking gosh.
Vas-y, Mérège, développe.
Écoute, si on devait faire ce film en France.
Maintenant, hein, je te parle.
Maintenant. Putain.
Tu peux pas prendre Jean-Pierre Melville.
Je sais ce qu'on ferait. Je sais exactement ce qu'on ferait. On ferait une parodie des Affranchis. Tu vois, et on appellerait Philippe Lachaud.
Oh mon
et
Dieu.
Genre, il prendrait toute sa clique, tu vois, pour faire genre une version fun, drôle et peps pop, tu vois, des Affranchis. Ça s'appellerait, je sais pas, les Affranchiches. Tu vois.
J'achète.
Ouais, voilà, les Affranchiches. Et voilà, et tout le monde serait mort de rire parce que Philippe Lachaud, il ferait le rôle de Niro, tu vois, ou de Joe Pesci, justement. Et ça serait, ouais, les références sont charmées et tout.
Franck
et voilà.
Dubosc, ce serait le parrain.
Ouais, voilà.
Ce serait
ouais.
Poli, tu sais.
Ce serait beau. Bah, la question d'après, c'était est-ce qu'il y aurait moyen d'en faire une comédie? Donc, t'as répondu à celle-là
aussi. Ouais, c'est clair. On appelle la show quand on ne sait pas quoi faire. Allez.
Toi, Guillaume, t'as une tech sur la faisabilité de ce film en France?
En France.
On a eu un prophète qui n'était pas du tout la même chose, mais qui a un bon film de mafieux où on suivra un parcours initiatique, mais rien à voir. Donc
ouais, mais moi je prendrais quelqu'un qui maîtrise tous les codes du thriller. Je prendrais Fred
Cavaillé.
Ouais.
Il a un peu perdu de sa superbe quand même récemment.
Non, ouais, puisque son dernier, le jeu, était carrément un thriller, mais en forme de comédie. Mais c'était la mise en scène, c'est du thriller.
Oui, ça c'est sûr, mais je suis pas. Ouais, je pense qu'il.
Le remake du film
du
espagnol.
Film,
hein,
italien
ouais. Ouais. Ah oui, je l'ai vu, ouais.
Ouais, j'ai trouvé ça horrible. Que donnerait ce film s'il avait été réalisé par Zack Snyder? Est-ce que ce serait mieux?
Peut-être encore plus sombre.
Je pense que il aurait
beaucoup de ralenti.
Il aurait vite bifurqué vers un film de gunfight, tu vois, au règlement de compte, poursuite en bagnole, tu vois ce que je veux dire.
Ça aurait été un film d'action, quoi.
Ouais, ça aurait été un film d'action en fait.
Ouais.
Non,
toujours rêvé d'être un gangster, tu vois, puis derrière t'as deux immeubles qui s'effondrent.
Je pense qu'il aurait fait les 20 premières minutes de la franchise sans la voix off, mais au ralenti, comme il a fait un peu dans Sucker Punch, tu vois, avec genre des images qui bougent avec les regards des gangsters, le gamin qui est qui est trop en admiration.
Ouais, c'est
les
ça.
Mecs.
Ouais, c'est ça. Un plan où le gamin, en fait, il devient, tu vois, en morphing, le personnage à l'âge adulte avec tout qui se morphe derrière et tout.
Ouais. C'est beau. Ouais.
Ça aurait été bien. Hein. Ça te donne envie ou pas, David?
Ah, moi, j'achète tout de suite hein, Zack Snyder. Hein. C'est quand même.
C'est ton dada.
C'est quand même le réalisateur qui s'est démarqué ces 15 dernières années.
Hein. Et arrêtez de dire du mal de Zack Snyder.
Moi, j'adore, hein, donc j'ai pas.
Ouais, mais tu verrais Les Affranchis par Zack Snyder, ça te.
Ouais, mais à ce moment-là, je pense qu'il partirait sur une approche beaucoup plus. Entre guillemets, pictural, type tableau italien, et avec beaucoup plus de texture et quelque chose qui serait moins, entre guillemets, American Way of Life, mais plus, qui se rapprocherait plus du Parrain ou des choses comme ça.
Ouais,
quoi,
je pense qu'il aurait du mal à tenir la narration. Enfin, je dis ça comme ça, je pense que c'est quand même pas le plus grand conteur d'histoire de la planète, et celle-là, faut la tenir, quand même, pendant 2h20.
De toute façon, quand tu regardes un film de Zack Snyder, tu le regardes pas pour l'histoire non plus.
Oui, mais là, c'est un faux. Peu Les Affranchis, c'est un film qui tient beaucoup sur ça, quoi, sur ce flux de pensée, c'est de réussir à t'embarquer dans cette histoire de manière tonitruante. Faut absolument filer un rôle dans ce film à Louis de Funès.
Bah, Joe Pesci.
Bah, oui.
Joe Pesci direct.
Il y a même pas.
Net, quoi.
Donc vous la voyez la séquence où il dit moi je suis un mec drôle, je suis un clown.
Ouais.
Mais je veux par Louis de Funès.
Le clown moi. Ah ouais, c'est bon ça.
Je te fais rire. Voilà, bon, tu.
Ouais,
ouais,
je
c'est
valide.
Bon, ça te va. Ok, faut absolument faire un prequel de ce film. Est-ce que ça vaudrait le coup?
Bah, ça va être compliqué, à moins de faire la conception de Ray Liotta.
Moi, je trouve qu'il y a toute l'histoire de De Niro qui peut être racontée, hein, toute son ascension. Ça me fait un peu penser, tu sais, à Infernal Affair 2, quoi. Tu prends le personnage annexe et en fait, tu racontes son ascension, bah, un peu le Parrain 2 aussi, d'une certaine manière, mais.
Non, ou alors t'aurais fait ce qui se passe entre Tommy et Henry au moment où ils se font arrêter, là, tu sais, au moment où il va en tôle, il sort quelques années après, et avant qu'on les retrouve adultes, quoi, tu vois, l'adolescence, quoi, on va dire, l'adolescence de...
Ouais, faudrait changer d'acteur pour Tommy, parce qu'il est quand même pas terrible, le petit gamin qui joue Joe Pesci jeune, je crois.
Ah, il dit deux phrases dans
le
film.
Ouais, mais t'as pas l'impression que ça va être le Joe Pesci que tu retrouves après, qui est capable de défoncer un gars juste parce qu'il lui a pas servi, parce qu'il a demandé la note de restaurant, ou, tu vois, je veux dire, t'as un préquel, mais qui mérite cette...
Non, bah écoute, moi, un préquel, je sais pas, il faudrait faire Bugsy Malone, quoi, un truc avec que des enfants, tu vois.
Je sais pas. Genre, ouais, tu veux rester dans le monde des enfants.
Ouais. Non, je pense que ça aurait pas vraiment d'intérêt. Enfin, je vois pas trop.
Bon, bah personne signe. Moi, j'avoue, un préquel sur le personnage de De Niro, je
ou
pas.
Sinon, carrément partir sur.
Poli, quoi.
Non, aucun des personnages du film, mais plus la montée de la mafia dans les quartiers de New York, etc. Et comment ça s'est déplacé éventuellement du centre-ville vers les banlieues, le New Jersey, etc.
Oui,
là, il peut y avoir
film,
quelque chose à faire.
Gros film. Ça prend du temps. C'est pas mal. Est-ce que ce film serait intéressant à faire en série? Toi, t'aimes tellement le film que de toute façon, les questions, elles te gavent.
Ah non, mais moi, toutes tes questions.
Touchez pas à ce film.
Non, pour moi, il n'y a rien à toucher.
Ah, c'est
pourquoi des mots.
T'inquiète pas, rien ne se passe.
Non, parce que
ça rien changé.
Ça rendrait.
Je te promets.
Je suis en transpiration, là. Ouais, j'ai peur que des idées sortent de là et se fassent, quoi. Non, il faut arrêter. Il faut laisser les films là où ils sont. Il ne faut pas les faire en série, forcément. Le vrai problème, c'est la narration.
La
narration en voix off, que tu reviens constamment sur le personnage qui est plus vieux, qui raconte ce qui lui est arrivé, le raconter en série télé, ça peut pas marcher.
Ouais.
T'auras pas ce changement temporel et cette façon de raconter de façon avec du recul dessus, tu pourras pas l'avoir en série.
Ouais, ce rythme effréné quand même, hein, cette ascension, il faut que ça évite Les Affranchis. Hein.
Oui,
les
mais ça,
hyper rapide.
Ça serait quand même une adaptation, ça serait pas Les Affranchis, parce que c'est vrai que
ouais,
toute la jeunesse du héros, film, par exemple, tous les 400 coups qu'il a pu faire, tous les trucs, toi s'il y a 9 épisodes, je sais pas, tu peux quand même essayer de faire un truc.
Je suis d'accord avec David, ce serait plus vraiment ce qu'on... Parce que Les Affranchis, ça va au-delà de l'histoire, en fait, c'est ce qu'il a réussi à faire après avec Casino, enfin, c'est cette espèce de formule, tu vois, avec le rythme, la voix off, pareil que de Wall Street.
De toute façon, la promesse d'une série adaptée de long métrage, c'est quand même un petit peu bizarre. On me dit on va te faire plus long,
c'est adapté d'un
en moins bien fait. avec moins d'argent, du coup, c'est un petit peu con comme concept, quoi.
C'est pas faux.
Mais sinon, tu le fais à la How I Met Your Mother. Tu vois deux gamins et puis t'as le père qui leur explique, bon, bah voilà comment je suis devenu un gangster.
Tu pars pour 10 heures.
9 saisons.
Ouais, en soap et tout.
Est-ce que ça vaut le coup de faire un jeu vidéo de ce film?
Ah bah il y a quasiment eu, il y a eu Mafia et
ouais,
tout.
Ouais, ce que j'allais dire.
Ouais, ça existe déjà. Quasiment.
C'était les années 30.
Mais c'était plus basé sur le parrain,
le jeu,
non,
le jeu vidéo.
Ouais, oui, mais je veux dire, il y a plein de jeux de mafia comme ça, avec des trucs inspirés, des GTA, des machins, des trucs.
Ouais. C'est vrai GTA, qu'il a pas trop, il a pas trop inspiré GTA 3 un peu, qui est un peu inspiré des Infranchis, mais moins que Scarface n'aurait inspiré GTA Vice City par exemple. Mais oui, donc ce serait ce type de jeu, quoi, pour vous. Hein.
Ouais, je pense.
Si ce film était une vidéo YouTube, ce serait quoi?
Si ce film était une vidéo YouTube,
bah, ce serait, à mon avis, moi je vous le dis comme ça, ce serait en fait un story time, quoi. Genre un mec qui te raconte pendant une heure comment c'était d'être un mafieux, juste en face cam.
ouais, c'est possible.
Ce serait juste le monologue, mais sans les images, en fait.
Ouais, puis sortirait un album photo, puis te montrerait des photos comme voilà. Ça, face cam.
Exactement.
Voilà, j'étais comme ça.
Voilà, avec de temps en temps des petites incrustations de vidéos qu'il avait pris à l'époque ou genre de trucs, quoi. Non, ça t'inspire pas une vidéo YouTube. Ou ça peut être la tienne.
Je connais pas YouTube.
Ah oui, c'est vrai. Ça pourrait être la tienne, d'une certaine manière.
Voilà. En tout cas, ma vie.
Merci pour le chips.
Excusez-moi pour les chips.
En tout cas, ça serait une des meilleures vidéos YouTube jamais faites. Hein.
Ah, c'est clair que moi, en termes de...
Putain de vidéo YouTube. Hein.
Ouais. Est-ce que ce film vous a donné une envie particulière? Moi, je vous le dis direct, de bouffer la bouffe dans ce film.
Oui, la scène où il prépare les pâtes, la sauce tomate. Ouais.
Les sandwichs au début, là. À un moment, t'as un plan sur des sandwichs dans la réunion où il y a avec tous les mafieux.
Oui, des roulés, des canapés. Ouais, de charcuterie.
Ça m'a trop donné envie, exactement. Ouais, ça m'a donné envie.
Non, ouais. Moi, tu sais, non, le plus beau plan du film, il faut en parler.
Sur l'oignon.
C'est quand Polly, il coupe l'ail.
Ouais, l'ail, ouais, c'est l'ail, ouais.
Avec la lame du rasoir. Si ça te donne pas envie de bouffer, bordel,
c'est pas faux.
Mais sinon, est-ce que ce film...
Pas trop d'oignons dans la sauce. Excuse-moi, je t'en prie.
Moi du coup, c'est juste tester une fois par curiosité de voir ce que c'est de porter des chemises avec des cols pelle à tarte pareils qui arrivent quasiment jusqu'au milieu de la poitrine.
C'est vrai qu'ils ont des looks bien affirmés, quoi.
Parce que ça doit être chiant, en fait.
Et je me rappelle que quand j'étais jeune, ça me donnait envie de fumer des clopes. Parce que je trouvais Ray Liotta hyper classe quand il fume sa clope à l'aéroport à côté de Joe Pesci et qu'il attend le camionneur là, pour lui péter son camion.
Et il y a deux nègres qui m'ont volé mon camion.
Ouais.
Cet enfoiré de camionneur, quoi, putain.
Ouais, moi je pense que ça m'a bien marqué. Moi j'étais super envieux, comme on disait tout à l'heure, quoi, le plan séquence, t'es VIP, on t'ouvre la porte, tout le monde te connaît, t'as une table réservée, tu vois, voilà, le respect.
Toi, t'as envie d'être un wise guy, quoi.
Ouais, en tout cas, quand j'étais jeune, tu vois, j'écoutais un peu de rap, j'étais un peu là-dedans, quoi, la street cred, tu vois.
Ah ouais, ça t'a donné envie d'avoir de la grosse street cred, pas mal. C'est quoi pour vous? Est-ce qu'il y a un détail qui tue dans ce film? Un petit détail que vraiment vous trouvez notable?
Évidemment.
Vas-y.
J'en sais rien.
Ah, moi j'aurais dit, vas-y. Moi je trouve que Samuel Jackson, c'est un détail.
Tu l'as dit, couper l'ail.
Oui, cet insert sur l'ail. Un détail qui tue, t'as dit?
Ouais, enfin, le petit détail
Le petit détail qui défonce.
Ouais.
En fait, moi, ce que j'adore dans les affranchis, alors c'est pas que dans les affranchis qui fait ça, Scorsese, mais il le fait particulièrement dans celui-là plusieurs fois, c'est les arrêts sur image. Et tu sais, il y a des scènes où les personnages discutent entre eux, et puis là, tac, un arrêt sur image, la voix off qui reprend de Ray Liotta, et tu comprends que le gars juste à côté, il va y passer, quoi. Je trouve ça marrant et efficace de faire des arrêts sur image. Pour vraiment souligner le moment et dire, bon voilà, vous voyez, lui là, il va y passer, il va disparaître, c'est terminé. Regardez-le bien.
Ouais. Toi, Tomérèche, t'as un petit détail qui tue.
Ouais, je crois que peut-être que j'affabule un petit peu, mais il me semble pas. Ça doit être le dernier plan du film où Ray Liotta, il sort en peignoir.
Ouais,
tu vois ce que je veux dire. Et il a beau. Parce que ça va, la baraque est bien, tu vois, il est en peignoir normal, tu vois, mais en fait, il a l'air trop d'un ringard, quoi.
La première fois que j'ai commandé des macaronis, on m'a amené des nouilles au ketchup.
Ouais, voilà.
Je vais finir ma vie dans la peau d'un plouc.
Ouais, voilà, et tu fais, oh putain de merde, quoi. Et je crois que le peignoir, il est assez fatal, quoi.
Ah ouais, bah tout, le journal, même le bled, enfin, je veux dire, le quartier, c'est vraiment l'Amérique que t'as pas envie de vivre, quoi. Ouais, toi, t'as un détail qui tue ou pas?
Ah, c'est pas un détail, mais c'est quelque chose qui m'a vraiment marqué. C'est que bah, quand tu vois le casting, le mec qui a la plus grosse carrière et la plus grosse présence à l'époque, c'est De Niro, et il s'est mis en retrait quasiment sur tout le film. Il a laissé les autres prendre le devant, sachant que de toute façon, il rajoutait derrière une présence en plus, et rien que ça, d'avoir la classe, même s'il connaissait bien Scorsese, de se dire... Le film, j'aurais pu le faire tout seul. Il est resté, il s'est mis en retrait. Et là, franchement, c'est très, très fort.
Je valide.
Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Moi, le détail qui tue, c'est la musique de fin, où c'est donc My Way, mais chanté en mode punk. Et Rafik Djoumi en parle très bien dans son, dans son Total Tracks dédié au film. Et c'est vrai que d'un coup, il arrive totalement à symboliser ce côté, en fait... T'as vécu toute cette période et t'arrives au point où, en fait, la chanson de gangster originelle qui avait la classe chantée par Sinatra, c'est devenu un truc de punk pourri, enfin, en mode nos futurs énervés, tu vois, et c'est vraiment, je trouve que elle est hyper forte.
Enfin, la musique originelle, c'est quand même Claude François.
Oui, oui, bien sûr, c'est My Way, c'est comme d'habitude, évidemment, évidemment. Alors, est-ce qu'il y aurait une théorie particulière sur ce film, si vous n'en avez pas, on n'est pas obligé d'en trouver une tout de suite, hein, vous inquiétez pas, mais.
Bah, la théorie la plus répandue, c'est que c'est la première partie de Casino, quoi. En fait, que c'est ces deux films qui se répondent, quoi. Alors que c'est pas forcément le cas en vrai.
À part en termes de narration, enfin de concept cinématographique, c'est vrai qu'après c'est deux films qui sont très différents.
On parle souvent de Casino, on dit c'est la suite des Affranchis, quoi.
Ouais, ouais.
Un peu comme L'Impasse, c'est la suite de Scarface, tu vois.
Ouais. Ouais. Mais d'ailleurs,
dans Scarface, L'Impasse, c'est Scarface s'il était en taule et qu'il était pas mort.
C'est ça, ouais. C'est un peu ça, ouais. Ah, c'est ouais, un peu le truc, ouais.
Mais est-ce que je me trompe, le livre qui a inspiré Les Affranchis, c'est l'auteur en tout cas, c'est le même que celui qui avait écrit aussi Casino, non, je crois. C'est pas le même auteur.
Je sais pas.
Qui a écrit Les Affranchis.
Il me semble que c'est les deux.
Comment tu dis?
Nicolas Pileggi.
Voilà, Nicolas Pileggi. Ah, ouais, je crois qu'il a écrit à la fois Les Affranchis et Casino.
Ah, c'est ça le. Donc du coup, c'est ça le lien fort aussi, quoi.
Ouais, voilà, exactement.
Mmh. Ouais, c'est pas une théorie, mais bon, c'est. Vous avez le droit de changer un truc au film. Est-ce que vous le faites? Vas-y, pardon.
Théorie, est-ce que De Niro aurait tué la femme de Ray Liotta à la fin du film? Quand elle vient le voir pour lui demander
un peu
d'aide.
Ah, dans le magasin.
Lui dit, mais viens, rentre.
Ah, ouais.
Et elle lui dit, non, je repasserai tout à l'heure. Mais pourquoi? Viens.
Ah.
Est-ce que vous pensez qu'il l'aurait tué?
Bah non, oui. Je pense... Ah, je sais pas, parce que c'est vrai que tu tues pas la femme du mec avant...
Mais en même temps, ils sont en train de les balancer.
Ouais, mais tu tues le mec d'abord, non?
Comment?
Tu tues le mec d'abord.
Tu plaisantes, tu butes tout le monde.
Tu butes tout le monde, hein.
Ou tu la captures et tu fais du chien dans avec pour l'attirer.
Ouais, c'est vrai que cette scène, elle est forte, ouais. Parce que tu... Ouais, belle théorie. Est-ce que... Moi, je pense qu'en effet, bah... je suis dans le doute. Je suis comme le film a voulu nous montrer.
Vous êtes persuadé?
Ah ouais.
Ouais.
Ouais, bah de toute façon,
il va la tuer.
Ils font de cadeaux à personne dans le film. Donc,
bah oui.
Surtout à ce moment-là. Là.
Bah fini. Oui, là.
Même Joe Pesci, quand il veut devenir affranchi, il lui en met une dans la tête. Bon,
Qu'est-ce que c'est bien cette petite phrase où il fait oh merde, juste avant de prendre la balle, et d'avoir laissé ça au montage. Je trouve ça génial, quoi. Le oh merde. Genre, c'est tellement bien. Alors qu'en plus, il le dit même pas, enfin, il a pas le temps, c'est juste du son, quoi. Vraiment, je trouve ça tellement belle trouvaille, quoi. Belle trouvaille. Mais c'est. Bah de toute façon, on a tout par à volo à ce moment dans le film. Est-ce que vous avez le droit de changer un truc dans le film? Est-ce que vous le faites? Est-ce que vous avez une idée de changer un truc?
Pourquoi vous me regardez tous? Je vais rien changer.
Bah, de toute façon, moi je regarde. Lauren Bracco.
Ouais, toi tu changes Lauren Bracco. Souvent, c'est en lien avec les défauts. Cette question est toujours un peu idiote, mais c'est pas grave. Mais
qui j'aurais mis à la place, je sais pas. Mais en tout cas, oui, j'aurais changé elle.
Ouais.
Moi, je crois que j'ai quand même une petite frustration sur le fait que De Niro ait quand même un rôle assez réduit. Peut-être que je lui mettrais 2-3 petites scènes en plus, histoire de, je sais pas, de le voir un peu plus, mais c'est vraiment juste pour mon kiff perso. Hein.
Ouais, juste pour ça, quoi.
Ouais.
Moi, j'avoue que j'aurais bien voulu mettre une scène de cul un peu crue. Je trouve que ça manque de cul cru.
Ah bah, il y en a une, hein, en fait, en même temps, elle est suggérée, mais c'est ça qui est cool en même temps.
Ouais, je trouve ça... Moi, j'aurais bien voulu voir Joe Pesci baiser la meuf qui drague au début, tu vois. Voir comment ce mec la baise, ça m'aurait intéressé. Non, parce que c'est vrai, comment il baise, quoi.
Mais t'avais vu le film sur Canal un premier samedi du soir à 22h, et puis non. Après t'avais...
que le Blu-ray, moi j'ai vu. Vous devez faire un coffret DVD avec ce film dedans, enfin un coffret Blu-ray DVD, vous faites quoi comme coffret?
C'est-à-dire?
Bah, je sais pas, tu peux faire les trois meilleurs films de mafieux et tu mets ça avec
deux autres films de mafieux. Ah, d'accord, qu'est-ce qu'on rajoute comme film?
Ouais,
avec
tu dois créer un coffret avec ce film, avec 3-4 films dedans.
Avec 3-4 films dedans.
Vous avez un concept de coffret qui serait cool?
Bah, je sais pas, bah, je pense que je mettrais des films de Scorsese. Enfin, je ferais un coffret Scorsese Mafia, quoi.
Ouais, là, voilà.
Je ferais.
Tu es allé le chercher, loin, celui-là.
Je suis allé le chercher. T'as vu, c'est fouillé. Hein. Non, mais. Bah, les Affranchis, c'est. Enfin, bon. Oui, on va dire que Casino, Les Affranchis, il y a une filiation, mais pour moi, ça reste tellement unique aussi, Les Affranchis, ça reste... Et puis d'ailleurs, je le mets au-dessus, moi, de Casino. Je le préfère à Casino.
D'accord.
Mais peut-être parce que j'ai découvert aussi, en premier. Ouais. Hein. Mais comme je disais, quelque part, pour moi, c'est le film qui a le plus réussi à nous rendre l'univers des gangsters aussi fascinant et aussi attractif, en fait.
Ouais, c'est vrai que c'est très attractif.
T'as envie, envie de faire partie de cette bande de potes. D'ailleurs, c'est ce qu'il dit, on était des potes, on était des Affranchis. Et tu dis mais ouais c'est ça en fait le kiff, c'est que c'est voilà, c'est pas comme dans Le Parrain où il y a quand
une hiérarchie,
même
enfin un côté voilà, très
voilà, il y a ça, oui, il y a hiérarchie presque militaire et tout ça, et puis
c'est vrai que la séquence dans Les Affranchis où il sort du tribunal et il y a tous les mecs qui l'attendent, qui l'applaudissent. Bah, tu sais, on dit, ouais, t'as perdu ton pucelage, tu vois.
Voilà, bah ouais, voilà.
C'est vrai que c'est une scène où t'imagines être un gamin de 14 ans et vivre ça avec tous ces adultes qui sont là pour t'épauler et tout, c'est jubilatoire.
Dans Le Parrain, il n'y a pas forcément de scène galvanisante comme ça ou d'adrénaline, c'est quelque chose de beaucoup plus intérieur, enfermé, alors que Les Affranchis, putain, c'est. On profite de la vie, quoi. On croque la vie à pleines dents. Voilà, on a du pognon, on a du fric, tu vois, quand il fait des plans sur toutes les liasses de billets de Ray Liotta qui sort de son futal, là, comme ça.
Ouais, même De Niro, la première fois qu'on l'introduit, où il file tout le monde tout le temps.
Oui, des billets de 100 dollars en pourboire. Tu te dis, putain, ces mecs-là, ouais, ils sont au-dessus de tout le monde, quoi.
Moi, j'avoue que je perçois pas ça quand je vois le film. Enfin, genre, c'est pas ce qui me touche, étrangement.
Moi,
c'est pour
même,
ça que ce film me parle beaucoup moins que Casino, parce que je pense que comme je vous le disais au début, le fait que tu vois, Casino, il est dans une belle villa, ils sont à Las Vegas, il y a un truc, il y a une démesure en fait qu'il n'y a pas dans Les Affranchis et où ça connecte moins avec moi, quoi. Mais tu vois, même Scarface me parle plus à ce niveau de démesure. Quand t'es un gangster, tu peux avoir cette démesure là et c'est ça qui me
ah ouais, c'est marrant, moi, Casino, ça me refroidit parce que j'arrête pas de me dire qu'il y a le désert autour, moi.
Ouais,
et qu'en fait, ils sont dans une baraque, mais dès qu'ils sortent, ils sont enterrés, tu vois. Donc,
toi, tu ferais un coffret, tu dois mettre ce film dans un coffret. Parce que
là, j'étais en train d'y réfléchir. Deux petits coffrets avec deux films à chaque fois. Un petit coffret mafia italienne, mafia irlandaise, en ajoutant Les Anges de la Nuit de Finn Johannou. Les deux films se ressemblent un peu et ça donne deux visions un peu des différentes mafias. Et l'autre, ce serait plus thématique, ce serait de rapprocher ce film-là où, en fait, l'histoire, si on la regarde vraiment, c'est dans l'autre sens, c'est-à-dire que c'est Ray Liotta qui raconte comment il est amené à balancer les gens qui sont autour de lui. Et à ce moment-là, je rajouterais Prince of the City, Le Prince de New York de Sidney Lumet, où là, c'est un flic
qui va balancer ses
autres flics.
Ouais,
les deux, thématiquement, se rapprocheraient bien. Je pense que ça pourrait faire des trucs intéressants.
Joli coffret.
Ouais, pas mal.
T'as un coffret, toi, Mérage ?
Ouais, moi, je fais un truc putaclic. Je fais Il était une fois De Niro, tu vois, peut-être.
Ouais.
Je fais Les Affranchis, Casino et...
Raging Bull.
Godfather
2.
Non, le dernier, aidez-moi.
Irishman. Ah, donc Il était une fois De Niro et Scorsese.
Ouais, enfin voilà, mais Il était une fois De Niro, quoi, tu vois. Et puis je mets le peignoir le peignoir à l'intérieur, tu vois. Voilà, avec des masters 4K de ouf, voilà, des interviews de malades, voilà, jusqu'à plus soif.
Ok, dernière question conne, est-ce que ce film est dans le top 3, dans un de vos top 3 de quelque chose, n'importe quel top 3?
Ah oui,
m'inventer un top 3.
Ouais, ouais. Top 3 des films de mafia. Ouais.
Toi, c'est,
il est dans
c'est
top
dedans.
3.
C'est bon.
Ouais.
Ok.
Ouais,
top 3 des films de Scorsese.
Oui, je pense. Okay. Oui. Ouais.
Ouais, moi je dirais top 3 des films de gangsters et sûrement top 3 Scorsese, c'est possible aussi, ouais.
Et top 3 De Niro?
Nope.
Moi,
non,
top
non.
3 des films de mafia américains sortis en 1990.
le pointard, le pointu. Top 3, t'as un top 3?
Non, du coup,
rentrer dans un top 3 d'autre chose. Hein.
Oui, non, mais je disais ça, c'est parce qu'en fait, je le mettrais pas, probablement pas dans.
Top
3
des films les plus nuls avec Lauren Bracco.
J'aime beaucoup le film, mais après.
Top 3, ouais. Top 3, moi je pense que top 3 de l'utilisation de la voix off dans un film, il peut rentrer. Je pense. Voilà. Je pense que ça fait partie des meilleures voix off de films. Parce qu'en plus, il a inventé une forme, quoi. Enfin, je veux dire, Je pense pas qu'on ait utilisé la voix off de cette manière-là avant ce film.
Avant Sunset Boulevard.
C'est pas la même utilisation, hein, franchement. Non, mais il y a ça, mais c'est pas aussi. C'est pas aussi. Non, t'as pas ce flux de pensée.
Oui, non, je suis d'accord.
Aussi violent et où il s'amuse chaque séquence, il la narre avec une espèce de distance bizarre. En plus, comme tu disais, il y a les pauses, il y a le temps. Enfin.
Il y a une vraie connivence, il y a une vraie complicité avec le spectateur, en fait. Il n'y a pas les regards cam de DiCaprio dans Le Loup de Wall Street.
Il y en a un à la fin, quand même, au tribunal, où il parle directement.
Oui, c'est vrai. Mais voilà, il y a quand même cette complicité qui fonctionne vachement bien avec le spectateur. Et c'est ça qui nous embarque aussi, beaucoup.
Ouais. Mais c'est vrai qu'il faut que je revoie Sunset Boulevard, je l'ai revu il n'y a pas longtemps. Mais
c'est incroyable.
Ouais, mais c'est un des rares de...
Dès le début, le plan sur le trottoir, la Sunset Boulevard, génial. Le cadavre dans la piscine, la voix off du mort, voilà.
Mais tu ne sais pas qui est le cadavre dans la piscine.
Non, on avait vérifié.
Non,
tu ne
sais pas au début du film.
on a eu la question en live au début.
Ah bon ?
Non, il ne te dit pas que c'est lui.
Non.
Il dit, tu le comprends.
Tu peux le deviner.
Ah bon ?
Non, il dit, un gars est mort.
Ouais.
Et voilà.
Ouais, mais je pensais qu'il disait.
Quand tu connais l'acteur, tu connais peut-être sa voix, peut-être que je sais pas.
Non, mais tu sais que c'est lui qui narre, mais je veux dire, tu le vois pas spécialement.
Tu le vois pas, tu vois un cadavre dans une piscine et c'est tout.
Ah, mais moi j'ai compris ça instantanément. Je sais pas, ou alors c'est mon souvenir peut-être.
C'est parce que c'est le souvenir.
Non, mais après, t'as plein d'autres films qui ont tellement pris de ça, tu vois. Enfin, je veux dire, American Beauty commence par une phrase, je pensais que c'était repris de ça, et en fait, pas vraiment. Je vais vous expliquer comment je suis mort.
Pour revenir juste un petit truc sur la voix off et éventuellement une idée de remake, il y a personne qui est tenté par un remake des Affranchis par Guy Ritchie.
Ah bah c'est...
Non, surtout pas.
Non, je veux dire,
surtout pas.
Moi
surtout
j'aime
pas.
Beaucoup Guy Ritchie, mais c'est clair que quand tu vois le film, en fait, tu vois où il a pompé son style majoritairement. Tu te dis ah oui, en fait, il a dévié ça quoi. Mais oui, c'est vrai que.
Il a fait un mash-up de Tarantino et Scorsese.
Ouais, beaucoup de Scorsese. Hein. Quand tu vois ça, tu te dis.
Après, il y a Todd Phillips aussi qui a fait du sous Scorsese avec War Dogs.
Ah oui, c'était totalement du sous Affranchis. Oui.
Voilà. Bon, j'aime bien le film quand même.
Oui, ça reste toujours divertissant.
Voilà, Joker aussi, c'est du sous Scorsese.
Oui.
Il y a un film pas réalisé par Scorsese. T'as l'impression que c'est réel par Scorsese. C'est le film de Paul Thomas Anderson, la Boogie Nights. Boogie Nights, on dirait.
Ouais, il y a des plans scorsésiens, mais le rythme est quand même pas le même.
Quand même.
Oui, Boogie Nights, oui. Après les autres,
ouais, mais le rythme c'est pas le même quand même.
Non, mais formellement ça ressemble vachement.
Celui-là, ouais, je suis d'accord, en effet. Ouais, c'est vrai que Scorsese, il a inspiré quand même. On va passer à la dernière partie de ce podcast, qui est donc le moment où on va statuer. On va un peu décerner des petites médailles. Et donc, qui vole la vedette ? Une seule personne, hein. Ça peut être
dans
le Real, ça peut être un poste.
C'est Joe Pesci.
C'est Joe Pesci qui vole la vedette.
Joe Pesci.
On est d'accord ?
Sans hésiter.
Bon, il a la médaille directe. Ouais, et donc, le grand perdant de ce film, c'est qui pour vous ?
Samuel Jackson.
Mais attends, on est en 89-90 ?
Ouais.
On est en 90. Il a déjà joué dans les films de Spike Lee à ce moment-là. Samuel Jackson. Hein.
Il commence quoi, mais
d'ailleurs,
il est vraiment pas connu quoi.
Ouais. Il a pas. Jungle
a pas
Fever
un
était
plan
pas
de
sorti.
Face,
je
bordel.
Crois.
Je vous dis, il a pas un plan de face.
Monsieur,
promets que non.
Si, il a un plan de face au début dans le lit quand il se lève.
Non,
et tout,
parce qu'en plus au
début.
Mais non, parce qu'au début on est sur la porte quand il se lève.
Bon, trois quarts face.
Trois quarts face, mais même quand on l'introduit.
Mais
quand
c'est
il
un personnage hyper secondaire.
Mais je sais, mais c'est marrant parce que même quand on l'introduit, les gens qui participent au casse, tu le vois sortir des chiottes, donc de profil, et il se barre dans la profondeur, et là on dit, à machin, qui était toujours un peu rebou. On n'en fait jamais un sort à ce mec. Donc c'est lui le grand perdant. Donc Guillaume, pour toi, c'est qui ? Pour toi, c'est évidemment.
C'est Lorraine Bracco ?
Oui, non, du coup, c'est le spectateur quand il voit Lorraine Bracco.
Ça serait plutôt la grande gagnante.
Tu l'as vu en VO le film ?
Oui.
Alors, voilà en VF alors.
Oui, mais non.
Tu me tiendras peut-être plus Lorraine Bracco. La doubleuse est vraiment bien.
Est-ce que c'est le sommet de la carrière de quelqu'un ?
Oui, c'est le sommet de la carrière de Joe Pesci. Il a gagné l'Oscar. Après, il a jamais fait mieux que ce qu'il a fait dans Les Affranchis. C'est le sommet.
On est d'accord. Joe Pesci, Scorsese.
Enfin, si, il y avait
L'Arme
Fatale 3 quand même.
Ouais,
là, il joue très très bien.
N'en parlons pas. Scorsese, c'est pas son sommet de carrière pour vous.
Moi, j'étais en train de me poser la question, c'est-à-dire, est-ce qu'il a fait mieux que Les Affranchis après ? Même s'il a fait des trucs mortels, je sais pas.
Bah, moi, j'adore Casino, mais bon, ça se joue entre Les Affranchis et Casino, pour moi, son pic.
Parce que les films d'avant, il y a des trucs que je trouve meilleurs, mais en revanche, après, je suis pas certain, quoi.
Pour moi, le pic, c'est Affranchis Casino.
Ouais, en tout cas, il est quasi au sommet. Enfin, je veux dire, Il est en train de gravir le truc. Quoi.
Et je pense que c'est son film, peut-être. Ouais, non, il a quand même fait d'autres trucs, mais je veux dire, le plus impactant, c'est peut-être celui-là, quoi, de sa carrière, celui qui. Tu demandes à quelqu'un un film de Scorsese, est-ce qu'il te dit pas Les Affranchis avant toute chose ?
Ouais, je pense, ouais.
Donc voilà, c'est peut-être ça aussi, quoi. Parce qu'après, oui, il y a Taxi Driver et Raging Bull, enfin, il y en a d'autres, hein, évidemment.
Oui, mais, oui.
Toi, tu penses que c'est la sommet de carrière de quelqu'un autre que Joe Pesci ?
Je sais pas. Je vais essayer de trouver, mais là, pour le moment, je.
Ouais. Est-ce que ce film a changé la carrière de quelqu'un ?
Bah, Ray Liotta.
Ouais.
Ouais, oui.
Il n'avait pas de carrière avant. Et
Ouais, qu'est-ce qu'il avait fait avant d'assez remarquable, lui ?
Qu'est-ce qu'il est devenu, surtout ? Moi, je le vois
plus. Moi, j'avais beaucoup. Aussi, moi, j'avais bien aimé Obsession Fatale. Obsession Fatale, vous vous rappelez ? Obsession Fatale ?
Avec, oui, 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 oui.
Avec Kurt Russell.
Unlawful Entry, ouais, je m'en souviens.
Il
ouais.
joue le flic qui.
Oh, moi, je me rappelle de Narc.
Qui drague, Narc, qui est drague
excellent
la
dedans.
Ouais, c'est mortel.
Ouais. Ouais. Et Absolum 2022, on est d'accord que c'était de la grosse merde. Hein.
Ah, oui. Oh, ouais, mais c'était fun à regarder à l'époque. Ouais.
Et
c'était...
donc, qu'est-ce qu'il a fait avant Les Affranchis, Ray Liotta ? J'ai un.
Ah, oh, moi, je ne sais pas du tout. Je peux rechercher si vous voulez.
Hein. Ouais, tu peux regarder, mais c'est vrai que ça. Enfin, si, je veux dire, si on connaît Ray Liotta, c'est grâce aux Affranchis et on se souviendra de lui que pour ce film, quoi.
Ouais. Voilà. Surtout pour ce film, quoi.
Ouais. Ouais, c'est sûr.
Et je recommande.
Après, bon, c'est parce que là, c'était entre guillemets de sa carrière, c'est le seul film où il avait le premier rôle. Il a fait énormément de films où il avait un second rôle, où, mais par contre, il a toujours une présence, il apporte toujours quelque chose au film.
Ouais, 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 il est souvent bon, même dans les films pourris qu'il a fait. Ouais.
Moi, je le trouve. Par moments, il me dérange un peu dans ce film. Je vous avoue que moi, par exemple, sa manière de
quand
rire.
Quand il rigole,
elle,
c'est.
Elle est louche,
j'adore, hein. J'adore.
Il est flippant.
Elle est louche. Hein. Alors, ouais. Avant, messieurs, il a commencé sa carrière en 1980 dans des téléfilms. Donc, voilà, il jouait Johnny Wizard dans Crazy Times, par exemple. Il a quand même joué dans la série Casablanca. Rien que ça. Parce qu'il y a une série Casablanca en 1983. Ouais, je vous l'apprends.
Comme quoi, tout est possible.
Tout est possible. Donc, avant, il avait fait. Donc, en cinéma un peu, il a fait Something Wild, Arena Brains, Dominic and Eugene, Field of Dreams. Donc, c'est son film juste avant. Henry Hill, donc dans Goodfellas en 1990. Et après, donc, il avait vraiment rien fait de notable.
Field of Dreams avec Kevin Costner.
Ouais, c'est celui-là. Ouais. Ouais.
Il joue le rôle de son père, c'est ça ?
Shoeless Joe Jackson.
Enfin, c'est un fantôme qui vient le visiter.
Je sais plus parce que je l'ai vu il y a très très longtemps.
Avec le baseball et tout ça.
Bah ouais, c'est ça, en fait. Où il doit construire en fait dans voilà. Son champ un terrain de baseball.
Ah non, il joue le rôle d'un joueur de baseball
fantôme,
qui a
Liotta, oui,
qui a disparu.
Mais c'est Kevin Costner doit construire un terrain de baseball dans ouais. Son champ en fait.
Ah les bons pitch des années 90.
C'est vrai.
ok, donc je pense qu'on
est. Et Something Wild était peut-être un peu connu aussi parce que c'est un film de Jonathan Demme.
D'accord. Oui. Qui allait faire.
Ouais,
son
tu dis
bon
Jonathan
Demme.
Ouais.
Demi.
Moi je dis.
Demi. Demi. Jonathan Demme.
D'ailleurs Demi Moore.
Alors.
It's pizza time.
Juste après.
Ah pardon.
Bientôt. Ouais, t'inquiète pas. Alors, on a plus ou moins répondu, mais est-ce que dans le genre, c'est un top 5 ? Est-ce qu'il rentre dans le top 5 du genre ?
Du genre mafia ?
Ouais.
Ah oui.
Ah oui, clairement, ouais.
Enfin, gangster, ouais. Ouais.
Ah oui.
C'est bon ? Non, toi, tu... Pas sûr.
Ouais, pas sûr. Parce qu'il y a quand même tellement de films dans d'autres pays. Il y a quand même...
Eh ben, on va en parler dans les autres émissions de cette thématique. Donc, vous inquiétez pas. Il y aura, tu vas pouvoir un peu te lâcher sur d'autres pays. Est-ce que vous avez une réplique à retenir ?
Ouais, bah moi c'est la première quoi.
Ouais, voilà,
quand on se souvient, j'ai toujours rêvé d'être un gangster.
On est d'accord que ça a quand même.
Mais on s'en souvient surtout parce que c'est devenu entre guillemets la parodie d'elle-même cette phrase. C'est que ça a été réutilisé.
Oh, elle est quand même tellement lâchée avec.
Oui, non mais.
Elle est lâchée de manière tellement énorme, je veux dire.
Ah, oui, ouais. Non mais c'est génial, mais du
c'est
coup.
C'est quoi ça frise, image freeze, il y a la voiture qui explose, c'est ça ?
Non, c'est juste. Il ferme le coffre, image freeze. J'ai toujours rêvé d'être un gangster et boum, musique et générique.
Ah, il n'y a pas une bagnole qui explose.
Non,
je crois un casino.
Ouais,
je crois un casino. Ouais.
Non, c'est oui, le casino, c'est la voiture qui explose. Ouais, ouais. Non, ben là, je pense que toi, tu parles de OM Funny. Ça, à mon avis, c'est plus la question d'après qui est la meilleure scène du film. C'est quoi ?
Oui, bah, c'est la scène où Joe Pesci.
C'est celle-là pour toi ?
Ouais, dans le restaurant, là.
Oui. Ça ou le plan séquence ?
Non,
moi, c'est la scène de Joe Pesci. Elle est. D'une intensité.
Ah ouais, moi.
Tu te dis, mais attends, là, tu te chies dans le froc.
Moi, j'aime beaucoup la scène où ils enterrent le gars en rouge, là.
Ah ouais.
Bam
ouais.
Non, c'est éclairé en rouge, ouais. Et puis ouais, il creuse et tout, il s'engueule.
Chose que Danny Boyle reprendra dans son premier film.
Shallow Grave,
petit ouais, meurtre entre amis.
Il reprend exactement la même séquence. Moi, pour moi, ma séquence préférée, en fait, c'est tout le moment coke, les 10 minutes sous coke du troisième acte.
Ouais.
Parce que c'est, mais. mais tellement bien fait, quoi. C'est, t'es clairement sous coke en même temps que le personnage. Enfin, il arrive parfaitement à transcrire cet état d'esprit, ce, cette paranoïa, ce tout. Il y a, c'est un marasme, cette séquence.
Alors, c'est la partie pas... que j'aime pas, en fait.
Et puis, ah ouais ouais. Et puis quand même, là, c'est... Oui, puis Joe Pesci, quand il fout la pression au mec, là. Là, tu me trouves marrant?
Ouais, bah c'est ça, c'est ce qu'il disait.
Excuse-moi, j'avais mal compris. Ouais, c'est vrai que cette scène-là.
Et puis, il y a aussi, bah, la, scène, aussi ouais. la scène dans le bar avec Bats, quand il lui dit, bah alors, elle est où ta boîte à cirage?
Ouais.
Et il dit, ah, ça y est, c'est fini, je tire plus les pompes, hein, tu sais, c'est fini. Et puis après, il dit, allez, ramène-moi ta boîte à cirage, là.
Le moment de bascule du film.
Et là, il bascule. Et...
Ouais. Espèce d'enfoiré de merde.
Et la moins bonne scène du film pour vous. Ah, dur, oui, je sais, le film est parfait, David. David lève les yeux à chaque question, tellement il aime ce film, il voit pas qu'on le touche.
Bah non, mais la moins bonne scène, pour moi, c'est parce que moi, je voulais pas, tu vois. C'est comme la fin de Trainspotting, tu vois, quand il devient un plouc, quoi. Encore une fois, c'est le peignoir, quoi. Je suis là, je suis en PLS, quoi. Je fais, oh non, putain. J'avais trop envie qu'il s'en sorte, tu vois, bah non. La morale, toujours la morale, quoi.
Dans les détails, j'ai oublié de le dire, mais il y a un truc qui me fait trop marrer, c'est quand on est au parloir de la prison, le plan commence sur un mec qui se fait tailler une pipe au milieu du parloir, et discretos, c'est un travelling, et genre, tu fais, putain, c'est vraiment n'importe quoi, cet endroit, quoi. C'est genre, tu vois juste une tête qui fait un haut en bas, et après, le plan, il défile, hein,
pour passer ouais, c'est à quelqu'un
qui,
vrai, c'est
qui
vrai.
Accueille sa femme. Donc toi, la pire scène du film, pour toi, c'est quoi la moins bonne scène, on peut dire.
J'essaie de repenser au film, pas sur quelqu'un d'autre, j'aurais peut-être une idée. Mais
on va y arriver, on va y arriver. Moi, je vous avoue qu'il y a un petit truc qui me frustre, j'ai remarqué, c'est le moment où il fait péter des bagnoles dans le parking, là. Bon, j'ai fini par le comprendre là, à l'instant, en fait. Il le fait pour, j'imagine, toucher une assurance, mais j'avoue que ce soit jamais expliqué qu'enfant, il se mette à faire exploser 10 bagnoles dans un parking, ça m'énerve un peu, quoi. Après, bon, c'est un détail. Hein.
Bah, en même temps, c'est pour montrer que, en fait, c'est un gentil toutou, quoi. Il fait ce qu'on lui dit, quoi.
Ouais, ouais, mais j'aurais bien voulu juste avoir un tout petit peu plus de contexte vis-à-vis de ça. Ouais. Et je suis pas un grand fan de la séquence où ils discutent pour aller où Joe Pesci lui dit qu'il veut aller à une date. Je la trouve là pour le coup, je trouve que c'est pas la...
Ah, dans la bagnole ?
Ouais, juste avant.
Ah, si, c'est mortel, c'est le plan fixe dans la voiture avec le resto qui est en train de cramer derrière.
Bah, il crame à la fin, quoi. Mais
Ah, si,
ouais, je suis pas fan du dialogue à ce moment-là. Mais écoutez, c'est pour.
Moi, ce serait, après réflexion, ce serait. Alors, je me doute que je serais le seul à penser ça. Ce serait plutôt la scène où ils sont en train de jouer au poker, j'imagine, et ils finissent par buter Michael Imperioli.
Ah oui ?
Tous les potards, ils sont à 15 000 et c'est un peu trop forcé en fait.
Oh non, arrête cette scène, c'est du masterpiece. Quand Allez. Joe Pesci sort le flingue comme ça.
Ouais. Quand l'autre lui dit.
Non, mais d'aller jusqu'à buter le mec et s'en foutre.
Mais c'est un mal. Mais
c'est dans la logique du film, mais j'ai du mal à connecter à ce moment-là.
Pour toi, ta suspension de.
Ouais,
là
c'est trop, ça va trop loin. Quoi.
Ah non, moi j'y ai cru à 1000%.
T'as trop de cœur.
C'est possible. Hein.
Peut-être ou pas, mais.
Non, peut-être ou pas.
Ok, donc on est tous d'accord que pour vous c'est un film à posséder ou pas ?
Oui, en Blu-ray disque.
Ouais.
Parce que vive le support physique. Et ne comptez pas sur les plateformes de streaming.
Il est, je crois, sur Netflix, si je me trompe. Je l'ai vu en Blu-ray, possible. Moi. Mais voilà.
Ouais, d'ailleurs, même deux fois. Moi je l'ai en Blu-ray et je l'ai en 4K aussi.
Voilà, histoire de quoi.
Voilà.
Voilà.
Oui, bah, bien sûr, c'est à voir. Après, bon, moi je le regarderai pas régulièrement, donc c'est pas. C'est pas un film sur lequel je reviens régulièrement, mais effectivement, faut la voir, surtout dans de bonnes conditions, parce que la photo est quand même superbe et elle est très très fine pour réussir à la voir bien rendue. Donc, faut vraiment avoir effectivement du support physique pour.
Et puis, si on veut se la raconter un peu, on peut prendre l'édition américaine. Du coup, comme ça, on a Godfellas au lieu des Affranchis, c'est pas mal. Ça claque.
Ouais, c'est vrai que le titre. Mais en plus, c'est frustrant, c'est marrant parce que aux États-Unis, dans la VO, le titre, ils le disent une seule fois. C'est-à-dire que tout le film, il appelle les gars les Wise Guys, et c'est le nom du bouquin. Et à la toute fin du film, il dit on était des potes, on était des Goodfellas. On était, ouais, ça. Et ça, il le dit à la toute fin quasiment. Tout le film, j'attendais le moment où il allait dire mais vous pouvez le dire, ce putain de mot là, Goodfellas.
Mais c'est marrant, moi, guy, tout le temps. Je m'aperçois que j'ai peut-être dû le voir une seule fois en VO ce film, alors que j'ai dû le voir 15 ou 20 fois. Hein,
ah, bah, c'est les films des années 90, quoi.
Non, mais parce que je l'ai découvert petit, quoi. Enfin, ado, quoi.
Ouais, ouais.
Et donc, tu sais, après, tu t'attaches à cette VF, donc t'as pas envie de changer.
Vous l'avez déjà vu au cinéma ? Vous avez eu la chance de le voir au cinéma ou pas ?
Jamais.
Ah, si ? Ah si, j'étais allé le voir à la Cinémathèque avec une copine. en VO du coup.
Pas mal.
Et
ça va avoir aussi notre
chance. Ah ouais, ouais. Et franchement, ouais, ouais, c'était une sacrée expérience parce que tu te rends compte encore mieux de l'impact que le film peut avoir au niveau de sa violence, quoi, ouais, sur le public. Parce que je pense que tous les gens qui étaient, on va dire la majeure partie des gens qui étaient dans la salle, je pense connaissaient le film ou avaient déjà vu le film. Mais malgré tout, de le voir comme ça en grand écran, sur grand écran, de façon collective, voilà, avec tout le monde. C'est pas la même expérience, quoi. Et du coup, quand les scènes de violence explosent, on entend dans la salle les gens vraiment réagir, quoi.
D'ailleurs, je fais une petite digression, mais c'est pour parler d'un truc d'actu un peu, qu'il ne sera plus au moment où ce podcast est diffusé, mais c'est pas grave. Il y a une séquence qui est filmée exactement de la même manière. Bah, c'est la séquence où Ray Liotta défonce le copain, enfin le voisin qui a plus ou moins agressé sa...
Abusé de sa femme.
Voilà, ouais. Et bah, c'est filmé comme dans la bande-annonce du Batman qui va sortir de Matt Reeves. Batman défonce un gars, quoi. C'est un seul plan fixe, un peu lointain, où tu juste es là et Ray Liotta il lui casse la gueule comme ça, tu vois. Et tu vois, il y a ce côté très et tu sais, ça coupe à rien. Enfin, c'est juste cette espèce de froideur de cette violence où tu sais, c'est ouais, pas esthétisé, quoi. C'est juste, tu vois un mec se faire défoncer devant toi et t'es un peu mal à l'aise, quoi.
Est-ce que Ray Liotta dit I'm vengeance?
Non, parce que c'est pas la même séquence. Non, je veux dire, il le dit pas. Non. Il le dit pas, ça. Ah, il aime pas Pattinson. Allez, allez.
Avec ses Doc Martens,
j'ai rien. Oh, voilà, avec les Doc Martens, non, mais franchement, c'est pas possible.
Ah oui, il a des Doc Martens quand il débarque. Ah, il est moche ce plan.
Ouais, ouais, franchement, ouais, avec sa cape qui pendouille là.
Non, c'est pas possible. Mais pour l'instant, on ne sait pas. Voilà, je me reverrai. Voilà, on verra. Wait and see.
Tu as l'air de vouloir dire un truc.
Ouais, ouais, un dernier truc, un dernier détail en parlant des titres, ça m'a fait penser à un truc. C'est que c'est vraiment un détail, mais qui est rigolo. C'est que c'est probablement un des titres les plus efficaces, mais les moins reconnus de Saul Bass.
Ah oui, tu veux dire.
Ah oui, le générique.
Ouais.
Ah ouais, c'est vrai qu'il me frustre un peu aussi parce qu'il défile, d'un coup il s'arrête.
Voilà.
Et c'est toujours énervant parce que il devrait normalement défiler jusqu'au milieu et s'arrêter une fois au milieu. Et là en fait, non, il apparaît après avoir défilé. Et ça m'a toujours frustré, mais c'est un peu en lien avec ce que le film va raconter. Donc c'est pas si. Bah, c'est plutôt. C'est cohérent. C'est
aussi,
cohérent.
Moi j'ai un petit détail, excuse-moi, qui me revient.
Vas-y, c'est un espace de liberté ici.
Parce que c'est trop fort, c'est Johnny Two Times. Give me the paper, ouais. Give me the paper.
Non, I'm gonna get the paper.
Ouais. Ouais, un truc comme
je vais
ça,
chercher des clopes, chercher des clopes.
Ah, hein. Il dit des clopes en vrai.
Moi, je connais très bien la VF, hein, si vous avez des questions.
Là, c'est énorme, quoi.
Alors, ouais, ce plan est cocasse aussi. Cette espèce de plan séquence où tout le monde regarde la cam et dit bonjour. Mmh. C'est improbable.
Ouais.
C'est une belle présentation. C'est marrant parce que ces personnes, on les voit quasiment plus après. En plus.
Moi, ça, il l'avait un peu déjà fait dans. Ça faisait penser à Mean Streets. Hein.
Oui, bah, de toute façon, c'est vrai que ce film est.
Dans le bar, la lumière rouge.
J'avais oublié Mean Street qui était aussi la matrice de ça.
Ah, bah, c'est totalement. Vrai.
C'est juste que c'est moins bien shooté, quoi.
Ah, ouais, beaucoup moins bien.
Ouais, moins de moyens. Mais quand même. Harvey Keitel et tout, quand même.
On va conclure sur ce film. Où est-ce qu'on peut vous trouver sur Internet? Qu'est-ce que vous avez envie. Enfin, où est-ce qu'on peut vous trouver l'un et l'autre? Dites-nous. On va commencer par Guillaume, vu qu'on avait fini avec toi au début.
Oh, bah, moi. On peut me trouver sur Twitter après.
Mais sur Insta aussi, tu prends des photos quand même.
Sur Insta, ouais. Ça fait quelques temps que j'ai pas posté, donc j'ai pas.
Oui, mais bon, tu sais, le temps que ça revienne. Donc ton Insta ou ton Twitter, c'est
Gbouko, Gbouku.
Voilà, Gbouko. Et toi, Merej, on peut te
trouver. Moi, on peut me trouver sur YouTube, ma petite chaîne YouTube, Merej. Ouais,
là, t'es à 3000 aujourd'hui. Je pense que le podcast sera diffusé, tu seras peut-être à 15.
Je suis à 3100, s'il te plaît.
Oh, bah voilà, tu seras à 15000 quand le podcast sera diffusé.
Vérifie, t'es peut-être à 200. Ouais.
Je sais pas.
Et toi, David? Bon.
Et moi, on peut me trouver aussi sur YouTube, sur la chaîne The Film Talker. Voilà.
Et moi, c'est toujours Critique de Zoltan sur YouTube. Eh bah écoutez, merci énormément d'avoir parlé de ce film. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre film de mafieux. Je pense qu'on va voyager au pays du soleil levant pour le prochain film. Donc vous aurez la surprise la semaine prochaine. Merci beaucoup et bonne toile. C'était la dernière séquence. C'était sa dernière séance. Et le rideau sur l'écran.